105 FM. Il est 19h. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes Angevin d'Amnesty. Ça fait très longtemps qu'on s'est rencontrés, puisque la dernière émission, ça devait être en février, je crois.
Oui.
On se rencontre sur Radio G, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission de rentrée masquée, consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, Philippe et Sophie, bonsoir à vous deux.
Ravi de vous retrouver.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Ça va.
Masqué.
C'est ça. Eh bien, dans cette émission, on va recevoir un invité. Il s'appelle Olivier. Il fait partie de l'ACVS49, l'Association contre les violences scolaires. Ça tombe bien, au mois de septembre. Puis, nous passerons en revue l'actualité. Mais tout d'abord, Philippe, tu voulais, dans ton éditorial, nous revenir sur un mot, le mot « ensauvagement » et la dégradante fiction de valeurs actuelles mettant en scène une députée noire.
Oui, 5 semaines après avoir employé cette expression, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, s'est de nouveau justifié sur sa phrase « Il faut stopper l'ensauvagement d'une partie de la société ». Pourquoi ce terme pose-t-il question ? Revenons d'abord sur son étymologie et ses emplois successifs et multiples. À la racine de l'ensauvagement, il y a le sauvage. Ce cousin du mot sylvestre s'emploie très tôt pour parler d'ermites ou de brigands qui vivent solitaires, généralement dans les bois, relève le dictionnaire Robert. Mais dès le XIIe siècle, le terme est détourné pour cibler les étrangers assimilés à des peuples sous-civilisés. Dans plusieurs chansons de gestes, il désigne tour à tour le rival sarrasin, l'ennemi saxon ou encore le voisin allemand. Cet usage du mot évoluera mais ne disparaîtra jamais. Il prend en 1806 le sens de personne qui, par ses actes de sauvagerie, évoque les peuplades primitives et finalement, depuis 1960, celui qui échappe aux règles établies.
Mais le sauvage renvoie aussi à l'histoire coloniale.
En effet, à partir du XIVe siècle, les sauvages désignent les natifs amérindiens que l'Europe découvre et décrit, souvent avec condescendance, en même temps qu'elle cherche à les christianiser. En réaction, une lignée d'écrivains humanistes développe le mythe du bon sauvage, décrit comme pur, vivant en harmonie avec la nature, au sein d'une société juste, comme chez Jean-Jacques Rousseau. Mais l'écrivain antillais Aimé Césaire retourne l'accusation de sauvagerie en 1950 dans son discours sur le colonialisme. Et finalement, si le colonisateur était le sauvage et l'homme des bois, le civilisé.
Mais cet usage du mot va finir par être éclipsé par le discours politique.
Jean-Pierre Chevènement, qui était ministre de l'Intérieur, en a posé les germes en 1999 en qualifiant les mineurs récidivistes de « sauvageons ». L'expression suscite alors un tollé. Et ce terme a été repris par Bernard Cazeneuve en 2016. C'est finalement le terme « ensauvagement » qui s'impose à sa place, désormais associé au champ lexical de la délinquance. En fait, c'est une réorientation qui est venue d'un livre qui s'appelle « La France orange mécanique » en 2013 du penseur identitaire Laurent Aubertomme.
Donc ce terme est devenu un élément habituel de la rhétorique d'extrême droite.
Oui, l'idée d'ensauvagement de la société apparaît ainsi dans la bouche de Marine Le Pen en 2013, puis en 2015 et même en 2018, le RN organise à l'Assemblée nationale un débat intitulé « De la délinquance à l'ensauvagement », masquant son accent anticolonialiste. C'est donc un élément récurrent de son discours qui est repris en 2020 par Darmanin. Dans la foulée, le député LR Éric Ciotti appuie son usage pour stigmatiser les populations d'origine étrangère, avant que le mot ne se retrouve à la une de Valeurs Actuelles, qui évoque imagerie à l'appui, je cite, « la France des nouveaux barbares ». On peut donc dire que sur ce plan, l'extrême droite a gagné la bataille des idées.
Et on en arrive à l'illustration abjecte parue dans ce magazine.
Oui, dans ce récit de fiction de 7 pages, publié dans le cadre d'une série estivale où des personnalités politiques voyagent dans l'histoire, la députée La France Insoumise de Paris, à la peau noire, je cite, guillemets, expérimente la responsabilité des Africains dans les horreurs de l'esclavage au 18e, selon la présentation qu'en fait ce média. Des dessins de Daniel Obono, collier de fer au cou, accompagne ce, guillemets, roman de l'été. Cette politique fiction a suscité heureusement, une vague de condamnations unanimes allant même jusqu'au président de la République.
Mais le texte qui accompagne cette infamie véhicule aussi une vision très pernicieuse de l'esclavage.
Et oui, je résume la fiction. Daniel Obono, acheté par un Turc à des négriers arabes, sera finalement sauvé par un religieux français qui la rachète à son maître pour la libérer. Cette figure idéalisée du religieux, le seul homme blanc du récit, relève de l'imagination. Le propos de cette fiction est implicite, mais il est très clair. Ils veulent dire que l'esclavage n'est pas une spécialité occidentale et en fait les pires esclavagistes seraient les arabo-musulmans et les tribus africaines complices. Donc le point central de cette focalisation sur les traites orientales, qu'il ne s'agit pas de nier, est donc de nier la spécificité de la traite atlantique, son caractère industriel et son fondement racial dont les Africains furent les victimes.
Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Olivier de la CVS 49, Association contre les violences scolaires. Bonjour Olivier, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Bonsoir et merci de m'avoir
invité. Olivier.
Bonjour. Alors dis-nous, est-ce que tu peux d'abord présenter ton association ?
Alors la CVS 49, ça veut déjà dire agir contre les violences scolaires. Le 49, c'est parce qu'on a créé l'association sur le Maine-et-Loire, tout sur Angers, mais nous intervenons sur toute la région Pays de la Loire. Dans la notion de violence scolaire, on va y mettre tout ce qui va être autour du harcèlement, du bien vivre ensemble, une thématique qu'on aborde beaucoup chez les petits, le cyberharcèlement, et puis toutes les formes de discrimination aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elles grossissent et grossissent. On insiste beaucoup là en ce moment sur la notion de sexisme et la notion d'homophobie. Ce sont deux notions importantes quand même que l'on demande de plus en plus. Et on intervient nous de la maternelle jusqu'aux études supérieures.
Ah, études supérieures, jusqu'à l'université.
Oui, parce qu'on va bientôt intervenir à la fac de médecine. Donc voilà, on intervient vraiment sur un grand champ. Puis cette association, malheureusement, on l'a créée en mai 2013 suite à problématique familiale, puisque notre fils aîné a subi du harcèlement pendant une grande partie de sa scolarité, qui l'a conduit à une tentative de suicide. Ce qui a fait que nous, on a voulu donner une réponse à ce mal-être et surtout à cette tentative de suicide.
Et est-ce que vous constatez une recrudescence de certaines formes de violences scolaires actuellement par rapport peut-être aux années 2000?
Alors le harcèlement, il y en a toujours eu, même si le mot a commencé à apparaître en 2010-2012. Là, on voit vraiment s'accroître des formes de harcèlement liées vraiment à la discrimination. Et là, on attaque vraiment les personnes. Et puis le cyberharcèlement. Depuis 2000, voire 2010, avec une augmentation, on a fait un constat là avec le confinement, malheureusement, plus de face à face, le cyberharcèlement fortement augmenté.
Ah bon.
Et on a vu vraiment des choses vraiment atroces pour certains jeunes qui subissaient du harcèlement, mais là après l'effet de groupe sur le numérique les jeunes étaient plus nombreux, donc avec plus de détresse quand même chez certains.
Ah oui, d'accord.
Et pour les interventions que vous faites dans les établissements, vous êtes donc appelé par les établissements eux-mêmes? Est-ce que c'est l'éducation nationale qui vous demande de venir plus particulièrement, ou l'institution, je veux dire?
Non, l'institution ne nous demande pas. L'institution autorise des associations à intervenir. On travaille à la demande des établissements scolaires ou à la demande des parents d'élèves. Souvent primaire, maternelle, primaire, souvent à la demande des parents d'élèves. Mais nous, c'est vraiment les établissements qui nous appellent. Alors, on a fait une grande campagne de communication l'année dernière. On a changé de logo, on avait changé de communication. Mais sinon, voilà, c'est que des demandes. Et là, par exemple, notre agenda, il est complet jusqu'au fin novembre, début décembre. Et on a déjà des dates programmées pour l'année prochaine.
Très bien.
Et est-ce que vous avez observé aussi des cas de racket caractérisés dans certains établissements?
Du racket, il y a du signalement de racket. C'est une forme qui tend, je ne vais pas dire à disparaître, parce que ça existe toujours, mais elle va être plutôt, on va dire, extrascolaire. Plutôt dans l'établissement, mais plutôt à l'extérieur. Les formes de raquettes qu'on peut avoir, elles vont être plutôt en primaire, on va dire, le vol de goûter, le vol de billes, mais vraiment sous contrainte. Le plus grand qui va extorquer quelque chose d'un plus petit.
D'accord.
C'est vraiment ça qu'on va constater.
Et vous sentez qu'il y a une prise de conscience de la part des élèves, quand même, petit à petit?
On pense quand même que nos interventions sont utiles, puisque déjà, je prends un exemple, à certains établissements où ça fait 4, 5, 6 ans qu'on intervient, on a vu un changement de comportement chez les élèves. D'accord. On a vu des élèves mettre en place des actions à l'intérieur de leur établissement, des campagnes d'affichage, et puis des élèves qui se sont formés pour devenir des ambassadeurs de la bienveillance, des ambassadeurs contre le harcèlement, et qui mettent en place des choses. Par exemple, on va travailler là, fin d'année, avec deux collèges de côté de la Roseraie, qui vont créer des affiches contre le harcèlement, pour sensibiliser aussi tous les collégiens de leur collège.
D'accord. Et vous êtes entouré d'une équipe de psychothérapeutes ou de juristes ?
Alors, c'est pluridisciplinaire.
D'accord.
On a des parents, peu de parents d'élèves quand même. On a des infirmiers scolaires, on va avoir des médecins, on a des psychologues, des pédopsychiatres. Mmh. On va avoir des juristes aussi, parce qu'on travaille. Alors, je travaille avec l'association LAJAD, qui est une association angevine. Mmh. Voilà, qui on est un fort partenariat. J'en suis même devenu le vice-président pour avoir un lien.
D'accord.
On travaille vraiment sur tous ces sujets avec différents partenaires.
Mmh. D'accord. Et autrement, est-ce qu'il y a moyen de vous contacter ? Comment on peut adhérer ou aussi être mobilisé au sein de l'association ?
Nous contacter, donc on a un site internet, on a une page Facebook, on a un compte Instagram, on a un compte Twitter, on est assez présent sur les réseaux sociaux. Là, on vient de lancer aujourd'hui une grande campagne de recherche d'adhésion et de recherche de dons pour pouvoir continuer aussi à mener nos actions. Parce qu'on fait partie, comme toutes les associations, la crise sanitaire a fortement impacté notre association. Donc on est amené on a lancé cette grande campagne de recherche de fonds. Mais voilà, les gens peuvent nous contacter sur notre site internet, il y a notre adresse mail, le téléphone. Okay. Et puis l'âge d'entrée par exemple dans notre association, c'est 16 ans. À partir d'un élève à partir de la seconde, il peut rentrer chez nous.
Ah oui.
Donc parce qu'on considère mineurs... qu'ils peuvent mettre en place des actions même au sein de leur établissement. Mm-hmm. La moyenne d'âge dans notre association, c'est 32 ans.
Ah oui.
Mmh. D'accord. Ah
oui, mais donc vous travaillez beaucoup par des interventions, je dirais presque de prévention, si on peut dire ça. Mais est-ce qu'il y a directement des familles qui viennent vous voir ?
Ah oui, tout à fait. On a l'aspect préventif, c'est à peu près 75% de notre activité. Et puis on a une permanence, pas très loin de vos locaux, à la Parentosphère, à la Maison des Familles, rue Saint-Exupéry. Tous les samedis, on reçoit des familles. Donc pareil. Les familles prennent rendez-vous, soit avec le jeune, soit sans le jeune, ou sinon on reçoit des jeunes aussi tout seuls qui ont besoin d'avoir un coup de main pour s'en sortir. Et on ne reçoit pas que des victimes, parce qu'on est amené aussi à recevoir aussi des personnes qui ont un rôle de harceleur ou de harceleuse. Voilà. Mm-hmm. Et que ça, c'est aussi important, ils veulent changer de rôle, savoir comment on réintègre le groupe, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est comment on reprend sa place au sein du groupe classe.
D'accord. Et moi, je pensais aussi au bizutage, qui est une pratique maintenant interdite. Mais est-ce qu'il n'y a pas des pratiques de bizutage encore qui sont peut-être laissées dans l'ombre ?
Le bizutage est certes interdit par la loi, mais il existe encore dans beaucoup d'établissements, notamment dans les écoles supérieures.
Oui.
Donc il y a encore. Mais on va peut-être pas avoir les mêmes formes de bizutage qu'on a pu avoir avant la loi, mais ça existe toujours.
Mais il y a des pratiques vexatoires, etc.
Ça a toujours existé, ça existera, alors malheureusement, encore.
Ouais.
Mais y a un point dans quand même, les chefs d'établissement, quand ils sont alertés de faits de bizutage, ils sanctionnent très rapidement.
Ouais, d'accord. Et il vous est arrivé d'intervenir dans ces écoles supérieures
Pas sur des cas de bizutage, non. On n'en est vraiment pas encore sur ce champ, mais ça pourrait. On pourrait être amené aussi à intervenir.
Oui, oui. D'accord.
Vous avez parlé de la JAD, mais d'autres associations travaillent avec vous ?
Alors oui. Alors on travaille déjà aussi avec la gendarmerie, le groupement de gendarmerie du Maine-et-Loire, qui est un gros partenaire. On va travailler avec la fondation Le Refuge, qui lutte contre l'homophobie. On travaille avec l'association Contact. Mmh. Aussi, on fait partie du collectif Prévention Suicide du Maine-et-Loire avec donc SOS Amitié et plein d'autres associations. On a plein de partenaires. On travaille avec la Maison des Adolescents. On va travailler avec d'autres partenaires qui sont d'autres associations sur le thème aussi du harcèlement. On va travailler par exemple avec l'association Marion la main tendue de Nora Fraisse, qui a créé son association suite au décès de sa fille Marion. Mmh. Il y a eu un livre et un film qui est sorti, Marion 13 ans pour toujours. Et à titre d'info, je vous donne une petite info, vous êtes les premiers à l'avoir. Y a-t-il une conférence qui sera mise en place au mois de novembre ? On est en train de finaliser la date et Nora Fraisse viendra animer cette conférence avec un ciné-débat.
Formidable. D'accord. N'oubliez pas de nous envoyer l'info, on va relayer ça auprès de Radio G.
Oui, ça va très vite venir.
Très rapidement, donc pour vous contacter, vous avez dit qu'il y a plein de moyens, mais on tape quoi ? ACVS49 ?
Vous tapez www.cvs-49.fr.
Oui, et là, vous avez notre site. C'est tout à fait rapide pour obtenir les informations.
Et toutes les infos sont dessus.
Merci beaucoup, Olivier.
Merci beaucoup. À vous.
On se retrouve après une pause musicale. De retour dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM, vous venez d'écouter Dreamer. C'est un titre des Silent Sisters. C'est l'extrait de la compile Around the Block. J'espère que vous la connaissez. Elle a été créée par une cinquantaine d'artistes angevins. Les bénéfices iront directement aux équipes du CHU d'Angers. C'est une très très belle initiative. Vous pouvez aller sur Facebook ou sur leur site, hein, Around the Block, bloc B-L-O-C, comme le bloc opératoire.
D'accord.
Et vous pouvez avoir la compile avec 3 CD ou bien sur une clé USB. C'est un bel achat, plein de belles musiques et c'est sacrément utile. Mais il est temps maintenant, il est 19h19, de faire le tour de l'actualité des droits humains. Et on va commencer, Sophie, par les nouvelles du chemin de traverse et la halte d'hébergement d'urgence d'Angers.
Oui, en raison de la persistance de la pandémie, ce site est maintenu en accueil de jour et de nuit, au moins jusqu'au 30 septembre. La plupart des familles logées dans les hôtels y sont maintenues ou orientées vers des dispositifs plus pérennes. Les veilles devant le chemin de traverse permettant d'apporter nourriture et soutien sont de ce fait toujours suspendues. Pourtant, il y aura sans doute encore des personnes qui n'auront pas de place et qui auront faim. Où seront-elles ? Nous resterons donc disponibles pour inventer de nouvelles solidarités. D'autant qu'avec la possible fermeture de la Grande Ourse, des personnes risquent de se retrouver à la rue.
Et oui, on reste avec toi Sophie pour les nouvelles nationales. Eh bien Martine Landry, bonne nouvelle, a été définitivement relaxée.
Oui, coup de théâtre. Le 8 juillet, à moins de 24 heures de l'audience, le parquet s'est désisté, marquant ainsi la fin des poursuites absurdes contre notre militante qui n'avait fait qu'aider deux enfants à la frontière franco-italienne.